Enseignement sur la vie de Bouddha par le Vénérable Sasana, le 19 mai 2002.
Un jour, quelqu'un vient voir Bouddha et lui demande « Mais qui es-tu dans le fond ? Est-ce que tu es un animal ?» Il répond « Non, je ne suis pas un animal. Est-ce que tu es un dieu ? Est-ce que tu es une divinité ?» Il répond « Non, je ne suis pas une divinité, je ne suis pas un dieu. » Alors, est-ce que tu es un humain ? Il lui dit « Non, je ne suis pas un humain. Mais alors, qui es-tu ? » Et il lui répond « Je suis le Samasam Bouddha. » Le Bouddha pleinement éveillé par ses propres moyens. Donc en disant cela, il ne se présente pas tout à fait à nous comme un humain. Pourtant, il est né humain. Par les voies les plus naturelles que l'on puisse imaginer, il a vécu humain, mais depuis son éveil, il semble ne plus se considérer tout à fait comme un humain. Et il insiste souvent là-dessus. Il ne se présente plus du tout comme un humain. En fait, on peut se poser la question de savoir si ses disciples, une fois éveillés, peuvent eux aussi n'être plus présentés comme des humains. Là, le cas est différent. Lorsqu'un être atteint l'éveil complet, c'est toujours un humain. Plus tout à fait comme les autres, parce que son mental est vide d'impureté. Mais c'est toujours un humain. Plus tout à fait comme les autres, parce que au moment de la mort, il n'ira nulle part. Il n'y aura plus aucune suite. Alors que pour les autres, il y aura, après la mort, encore une suite. Incertaine, mais probable. Quand le Bouddha entre dans une catégorie un peu à part, pourtant il est né humain. Et il n'appartient pas à une classe d'existence qui ne serait pas référencée dans la liste des 32 qui sont donnés. A noter que les 32 classes, la division en 32 n'est pas donnée par lui, c'est pas lui qui l'a donnée à titre personnel. Il a seulement donné une subdivision de l'univers en 6. Et plus tard, les personnes détailleront et étendront la liste jusqu'à 32. Et en fait, on peut subdiviser. Rien que dans le monde animal, il existe tellement de... Il y a le règne. Il y a les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les mollusques. Donc on peut encore subdiviser si on veut. Sur les humains, par contre, on ne peut pas subdiviser. Il n'y a qu'une seule espèce humaine connue. Il est indivisible. Chez les dieux, il y en a plusieurs. Une vingtaine au total. Donc, Bouddha n'appartient, semblerait, d'après ce qu'il dit, n'appartenir à aucune de ces 6 grandes subdivisions. Effectivement, il présente des caractéristiques physiques qui sont différentes des humains. Caractéristiques qu'il les a acquises au moment de l'éveil, pas avant. Par exemple, il est très grand, il mesure facilement plus de 2 mètres, il a les cuisses parfaitement cylindriques, il a la peau d'un teint doré, cuivré, doré. On ne peut pas savoir exactement comment, on dit simplement que la peau est dorée. On ne connaît pas de détails, on ne sait pas si c'est vraiment comme des feuilles d'or. Il a 40 dents, qui sont toutes alignées de la même longueur. Il a des empreintes sur la paume de la main et des pieds qui évoqueraient une roue. Il a ainsi environ 32 signes majeurs et je crois 86 mineurs. Un signe qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que ses organes génitaux sont rentrés à l'intérieur d'une poche. Ils ne pendent pas. Donc ces caractéristiques ne sont visiblement pas humaines. Il n'est pas né avec ces caractéristiques, c'est tout simplement pas imaginable. Donc elles ont été développées au moment de son éveil. Tu peux laisser supposer que, au moment de l'éveil, il y a éventuellement des transformations dans le métabolisme corporel, dans le métabolisme biologique. C'est tout à fait possible. Alors, qui était cet étrange personnage qui nous a légué un enseignement aussi simple, aussi profond et aussi précieux, puisque c'est l'enseignement qui amène les êtres à la cessation complète de toute peine, de toute contrainte? Bouddha est né dans le monde humain, il était un humain, pas tout à fait comme les autres quand on voit sa destinée, mais tout à fait comme les autres quand on voit sa vie, son enfance, sa jeunesse. Il est né d'une famille extrêmement riche, une famille héritière de la couronne d'un petit royaume de Magadha, dans lequel le royaume de Magadha, dans la région centrale de la Madhyama Desa, ça veut dire la région du milieu, la région centrale entre les Himalayas et le Gange à peu près, entre New Delhi et Benares à peu près. Il n'a jamais mis les pieds en dehors de cette zone. Il a circulé dans toute cette région. Après, durant sa vie, il est né donc dans un endroit qui se trouve actuellement sur la frontière indo-népalaise, dans un village qu'on appelle, enfin dans une région qu'on appelle Lumbini, alors que sa mère se déplaçait en grand apparat, en reine qu'elle était, d'un village à l'autre, justement pour donner naissance à son enfant, qui est arrivé un peu plus tôt que prévu. Et donc, elle a donné naissance à son fils, en fait, sur le chemin, en pleine route, en étant debout, en se tenant à une branche. Beaucoup de femmes dans le monde accouchent debout, ou accroupies. Il paraît que c'est mieux. Et donc, cet enfant est arrivé avec, nous disent les commentaires, nous disent les textes, tout un tas de miracles merveilleux qui aurait entouré cet heureux événement, et dont la plupart sont vraisemblablement le fruit de l'imagination des peuples et des cultures du passé. Mais le fait est que ce n'est pas tous les jours qu'un être comme lui apparaît dans le monde. C'est une circonstance rare, exceptionnelle. Il y a des cycles cosmiques en nombre incalculable qui se succèdent sans que pas une seule fois un être comme lui n'apparaisse. Le royaume dans lequel il vivait était un peu particulier car en réalité il n'y avait pas de monarque absolu. La couronne était confiée à des princes. 100 princes étaient éligibles et chaque année ils étaient élus pour assurer la direction des affaires. C'était une sorte de monarchie, on pourrait presque dire une sorte de monarchie républicaine, bien qu'ils aient été élus, bien sûr, essentiellement par les hautes classes sociales, et pas au suffrage universel. Il a passé son enfance dans l'enceinte royale, dans le palais royal, et un astrologue du moment avait prédit, avait annoncé à son père qu'il serait vraisemblablement ou bien un monarque universel, si une catégorie d'être tout à fait à part, ou bien un éveillé, tellement éveillé, pour le prestige familial, pour le prestige de la couronne. Le père préférait bien entendu la première option, avoir un fils monarque universel. C'est une chose qui se présente très rarement, là aussi il en arrive assez peu, beaucoup plus souvent tout de même que les Bouddhas, mais il n'en arrive peu. Lorsque le monde est passé sous l'autorité d'un monarque universel, il vit une période de paix, de prospérité, de tranquillité, tout à fait inhabituelle. L'autorité du monarque universel est absolue. Il est l'être le plus puissant de l'univers. Mais ce n'est pas tout à fait le choix que fera le prince Siddhartha. Durant son enfance, ce garçon a témoigné des qualités tout à fait exceptionnelles qui l'ont rapidement fait remarquer de son entourage. Qualités de gentillesse, de bonté, de disponibilité, d'intelligence. Il était assez flemmard pour aller étudier, il ne suivait généralement pas les cours. Et pourtant, à chaque fois qu'il y avait des examens, il finissait premier. Il a appris les 20 sciences, la médecine, la mathématiques, l'astrologie, l'astronomie, l'art de la guerre, l'art de la diplomatie, les sciences que l'on enseignait à cette époque-là, c'est-à-dire à peu près tout le savoir humain, aux personnes des hautes classes sociales, en particulier, bien sûr, celles qui étaient amenées un jour à diriger. Parce que, à la différence de ce qui se fait de nos jours, à cette époque-là, et en particulier dans cette région de l'Inde, on ne confiait pas le pouvoir d'un royaume à des irresponsables ou à des ignorants. Seules des personnes ayant une maîtrise quasi absolue des arts, des traditions, de la musique, des arts de la guerre, des arts de la paix, de la philosophie, une connaissance quasi exhaustive de toutes les religions, de tous les courants religieux étaient éligibles. Malheureusement, cette tradition s'est bel et bien perdue depuis, et on l'a trouvée plus tard chez certains empereurs tout à fait exceptionnels qui ont succédé à Bouddha en Inde, Proche-Orient, des monarques de diverses traditions religieuses, de l'Inde, de l'Islam, qui étaient des personnes époustouflantes d'érudition, de connaissances, de sagesse, d'études philosophiques. Et ça s'est bien perdu, que ce soit dans l'hindouisme, que ce soit dans l'Islam, que ce soit dans la chrétienté. Et c'est une chose qui n'a vraisemblablement jamais existé dans les royaumes ou les républiques athées. Donc, le prince Siddhartha a suivi, certes avec une certaine nonchalance, comme c'est souvent le cas chez les enfants précoces, toute sa scolarité, il a fait ses études et il a gagné vraiment tous les examens, tous les titres, tous les diplômes. Très jeune d'ailleurs. Très jeune, il était arrivé à la formation complète. Il était donc apte à régner. Durant toutes ces années, son père était inquiet parce qu'il se souvenait de cette information communiquée par l'astrologue. Il faut savoir qu'à l'époque, les astrologues n'étaient pas 36-15 astrologie de maintenant, de nos jours. Ce n'étaient pas des charlatans, ce n'étaient pas des gens qui faisaient joujou avec des symboles, qui prétendaient lire dans les étoiles. C'est n'importe quoi. On emploie le mot astrologue pour traduire un mot pali. Je ne connais pas, d'ailleurs. En fait, le mot astrologue est finalement totalement inadapté. C'était des gens qui étaient doués d'une connaissance, d'une science impressionnante, des arts, de la philosophie, des diverses cultures, de la science, des mathématiques, exactes, de l'algèbre, de la géométrie, et qui étaient doués d'une sorte de sixième sens, comme on dit, capacité à sentir, à percevoir, à deviner. Tout à fait exceptionnel. On est très très loin de ces grandes doctrines, de ces grandes techniques qui se veulent scientifiques, voire même informatisées, du thème astral. Bref, ces gens-là ne se trompaient généralement pas. Durant toutes ces années, le père du prince Siddhartha a essayé d'orienter, évidemment, comme tous les monarques, comme tous les pères, pensent, l'avenir de son fils, en espérant plutôt en faire un monarque, comme lui, même infiniment plus que lui, puisque prédit à devenir un monarque universel, le monarque des monarques, plutôt qu'un Bouddha tellement éveillé. Donc, il a veillé à ce que son fils grandisse dans une enceinte ultra protégée, parce qu'il ne sort généralement pas du palais, pour éviter d'être confronté à certaines réalités dures de la vie, comme la pauvreté, la misère, la maladie, qui étaient des choses presque absentes à l'intérieur de l'enceinte royale. Il a fait construire des palais, un palais d'été, un palais d'hiver, enfin un palais pour chacune des trois saisons de l'Inde, la saison chaude, la saison froide et la saison des pluies. Il s'est occupé de lui, il a veillé à ce qu'il ne lui manque de rien. Et une fois venu en âge, il a tout de suite essayé bien sûr de lui trouver une épouse. Inutile de dire que on a sélectionné sur le volet des créatures tout à fait exceptionnelles, extrêmement intelligentes, extrêmement cultivées, extrêmement vives et bien entendu, si possible, extrêmement belles. Le jour venu, on s'est inquiété de ce que Malgré son génie, son intelligence, sa connaissance, sa compassion innée, le prince Siddhartha n'avait pas particulièrement manifesté le talent pour les arts, en particulier les arts de la guerre. Il avait en ce temps-là un sport extrêmement populaire que des tirs à l'arc, toujours très populaire d'ailleurs au Bhoutan par exemple et au Népal. Et alors, on a organisé un grand concours pour savoir si vraiment il était mûr, si vraiment il était complètement formé, prêt à devenir un homme, prêt à devenir un époux, prêt à devenir un roi, prêt à devenir un père. Et alors qu'il ne s'était jamais entraîné de sa vie au tir à l'arc, parce que les arts de la guerre justement ne l'avaient jamais intéressé, la guerre est une chose qui ne l'avait jamais intéressé, une option qui ne figurait pas dans son agenda. Et bien ce jour-là, il a époustouflé tout le monde, et il a littéralement écrasé tous ses contemporains, tous ses... les autres princes de sa génération, en réussissant le score parfait. Tout le monde était rassuré de voir qu'il avait vraiment toutes les qualités pour être un monarque, pour être le successeur du roi. Il faut savoir que lorsque Bouddha a quitté son palais, il n'était pas en fait le roi, c'était son père. Il était l'un de ces fameux princes amenés à diriger le royaume. Cela faisait déjà plusieurs années qu'il avait été élu successivement à ce poste. Il était systématiquement réélu. Lorsqu'il était enfant, une anecdote intéressante, un jeune garçon de son âge s'était amusé à tuer un oiseau avec une flèche très habile. Il a tiré sur l'oiseau et cela avait profondément meurtri Bouddha, qui n'a pas supporté de voir un animal innocent meurtri inutilement, surtout pour un jeu. Il avait été touché par cette image. Et ça lui avait à ce moment-là inspiré une profonde réflexion sur la misère de la condition humaine, sur la cruauté, sur le manque de compassion des êtres. Une fois, lorsqu'il était âgé de 9 ans, il a eu une expérience tout à fait insolite. Il a fait une expérience, ce qu'on appelle les jhanas, c'est-à-dire les consciences divines. Spontanément, sans vraiment faire beaucoup d'efforts, il atteint le premier jhana. La conscience divine est une chose dont il est assez difficile de parler. D'abord parce que il n'y a que très très peu de personnes dans le monde moderne qui ont fait l'expérience. Ensuite, parce que tous ceux qui en parlent, qui écrivent à son sujet, qui appellent ça l'état de Bouddha, l'état de ci, l'état de ça, conscience machin, la conscience truc, n'ont évidemment pas fait l'expérience. Parce que s'ils en avaient fait l'expérience, ils n'en parleraient tout simplement pas, en tout cas certainement pas en ces termes. La conscience divine est une chose qui est extrêmement difficile à atteindre et à expérimenter de nos jours. Même si on voulait s'y mettre, ce serait très difficile. Très très difficile. Ça nécessiterait un travail, un entraînement considérable. Mais il arrive, certaines personnes ont eu des expériences spontanées. Me concernant personnellement, j'ai entendu deux témoignages. Une vieille femme et un jeune homme ont parlé de leur expérience. Et la description qu'ils m'ont donnée, effectivement, semblait correspondre à l'expérience effective de la divinité. Mais ils n'avaient pas particulièrement suivi un entraînement intensif à la méditation. Ça s'est fait de manière presque spontanée. Mais pas par hasard. C'est arrivé à un moment tout à fait particulier. Ça ne s'est pas du tout fait par hasard. Ce qu'ils ont décrit correspond en effet à ce que les grands mystiques du passé ont pu décrire de la chose, passer à travers différents mondes, voir les différents plans d'existence, les êtres de la manifestation, etc. etc. Eh bien, ce jeune Gautama, ce jeune Siddhartha plutôt, a eu cette expérience alors qu'il était enfant. Cela arrive parfois aux enfants. Mais ils n'en parlent pas parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de leur arriver. Les enfants n'intellectualisent pas autant que les adultes. Ça arrive parfois, aussi à des enfants. C'est une expérience qui sera marquante et déterminante dans la vie du prince. Toujours est-il que, une fois marié à une jeune femme, magnifique, forcément, instruite, il aura de son union avec elle un fils. Et le jour de la naissance de l'enfant, alors que tout le monde pouvait se réjouir, lui, par contre, ne s'est pas du tout réjoui. Il a trouvé cet enfant particulièrement indésirable, et d'ailleurs, il lui a donné le nom de Lahoula, ce qui signifie celui qui est indésirable, celui qui est malvenu. Parce que, lorsque cet enfant est arrivé, il s'est dit, là, vraiment, je suis allé trop loin dans les chaînes. Je suis vraiment enchaîné, complètement enchaîné. Cette femme, à ce palais, à mes fonctions, qui étaient très prenantes, prince régnant. Beaucoup de gens venaient le consulter, pour son intelligence, sa sagesse, plus simplement pour son rang. Et il s'est dit, maintenant, un enfant qui arrive au milieu de tout ça, c'est pas possible. C'est trop. Et avant d'en arriver là, il a vécu plusieurs expériences. Cette enstase mystique particulière de son enfance, mais aussi, quelque temps auparavant, il a essayé de faire une sortie parce qu'il a voulu voir son peuple, voir son royaume, et même si son père avait tout fait pour éviter que ça ne puisse se produire, il a réussi par un subterfuge à sortir, grâce notamment au service de son inséparable et fidèle serpent, serviteur. Il était sorti et il a vu à ce moment-là le village, un village autour de proximité de son palais, la ville en fait. Il était stupéfait par tout ce qu'il voyait, je n'imaginais pas que ça puisse exister. Et surtout, il a été frappé par quatre images particulièrement marquantes, dont il ne soupçonnait bien entendu même pas l'existence. Il a rencontré un vieillard, un plus même plusieurs certainement, mais à un moment donné, son regard s'est arrêté sur un vieillard, il ne comprenait pas ce que c'était. Alors il demande à son serviteur, mais qu'est-ce que c'est ? Il lui dit, bah, c'est vous, c'est moi dans quelques années. C'est un vieillard. C'est quelqu'un qui est vieux. Et un jour, ça nous arrivera aussi, quand nous aurons vécu un certain nombre d'années, d'être vieux. Courbé, combattu. Elle était stupéfaite par ça. Et puis, un peu plus tard, sa balade, il voit quelqu'un d'allongé, apparemment souffrant. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Et sa lui dit, c'est quelqu'un qui est malade, qui souffre, qui se tord les boyaux, parce qu'il a atteint une maladie. Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Ben, une maladie, c'est quand on a un dérèglement, on souffre énormément comme ça. Et tout le monde peut être éventuellement confronté à cette maladie. N'imaginez pas que la maladie ait pu être aussi cruelle. Parce que, en général, son père fait du tout pour essayer de lui cacher ce genre de choses. Et puis, un peu plus tard, il voit quelqu'un complètement inanimé, sur un bûcher, prêt à être incinéré. Elle ne comprenait pas du tout ce que c'était. Il demande à son serviteur, qu'est-ce qu'il fait, il est en train de dormir. Et le serviteur lui dit, il est mort. Mais c'est quoi ça, mort ? Il a une habitude. Et là, il a pris conscience, un peu plus tard, que nous le faisons dans nos sociétés modernes, à cette époque-là, la naïveté des humains était encore possible. Et ayant été dans un environnement ultra protégé, il a visiblement pris conscience un peu sur le tard de la leçon de la mort. Il peut certainement savoir que ça existait, mais à ce moment-là, il a pris conscience que ça pouvait le toucher, que ça pouvait le concerner directement. Que ça le concernait directement. Quand il a vu pour la première fois de sa vie un cadavre. Humain, en tout cas. Et là, il a trouvé la chose horrifiante. Il a été horrifié dans cette vie. La maladie, la vieillesse, la mort. Là, il a pris conscience. Pleinement conscience, chose dont il devait bien entendu soupçonner l'existence, mais là c'était marquant, la circonstance ont fait que ça l'a particulièrement frappé. Tous les enfants passent par cette acquisition, les enfants ne conçoivent pas vraiment socialement. Tout jeune enfant qui voit un animal mort ne comprend pas, ne capte pas tout de suite ce qui s'est passé. Petit à petit, en grandissant, on commence à concevoir ces choses-là. Là c'est un peu ce qui lui est arrivé. Il a eu comme un électrochoc lorsqu'il a pris conscience de ces trois choses, pris conscience qu'elles étaient inévitables et qu'elles le concernaient lui autant que les autres, qu'elles concernaient les pauvres, les miséreux autant que les rois, les monarques, les riches, qu'elles concernaient les gens tristes ou les gens gays, les gens malheureux, les gens heureux, enfin qui se croient heureux. Et puis, il l'a vu. Une chose encore tout à fait insolite qu'il n'avait jamais vue d'auparavant. Un homme, le crâne rasé, portant des robes, tissu simple autour de ses épaules et de ses hanches, avec un bol, en train de marcher, de déambuler dans les rues. À moins que cette fois-ci ce ne fût assis en posture de méditation plutôt. Et donc il était surpris, il demande à son serviteur qu'est-ce qu'il fait. Et il dit ben voilà, c'est un renonçant, un ascète qui est à la recherche d'une certaine vérité, à la recherche d'une certaine expérience, pour se libérer. À se libérer de la maladie, se libérer de la vieillesse, se libérer de la mort, se libérer de la souffrance. Et cette image a frappé Bouddha qui, à l'instant où il a vu ça, a compris que c'était ça son avenir. C'était ça qu'il voulait. Il voulait trouver une voie, trouver la voie qui puisse mener les êtres à la fin de la misère, à la fin de la souffrance. Il a compris à cet instant-là que c'était là son sacerdoce, que c'était là sa vie, que c'était là sa fonction, son utilité dans le monde. Et dès cet instant-là, la décision était prise dans sa tête. Donc, quelques temps après, c'est à ce moment-là que son premier fils est arrivé. Fort de ses expériences, et prenant conscience qu'il était complètement empêtré dans une vie tout à fait ordinaire, finalement bien mondaine, il a pris la décision de suivre la voie des ascètes, des renonçants, tout abandonner, abandonner ses multitudes de richesses, abandonner son poste, ses responsabilités, mais aussi abandonner toutes les contraintes que cela pouvait susciter, toutes ses fonctions, son palais, sa famille, sa femme, son gosse, tout abandonner. Et c'est justement le jour de l'arrivée de son petit que là, le point de retour était atteint. Il s'est dit, c'est maintenant que je dois partir. Et donc, le jour même, le soir même, alors qu'il y avait un immense banquet, un immense festin dans le palais, à un moment donné, par le fait de quelques magies, tout le monde s'est assoupi. Il y a eu un moment d'assoupissement général. Et on a profité à ce moment-là pour s'esquiver, discrètement, avec son fidèle serviteur, bien entendu, son cheval royal. Blanc, comme tous les chevaux royaux, évidemment. Et donc il part sans rien, juste avec son épée, bien sûr, princière, minimum de vêtements, pour passer inaperçu, vraisemblablement. Puisque de toute façon, il avait prévu de partir vivre comme un ascète, comme un yogi, comme un sadhu. Une fois qu'il a franchi quelques kilomètres, il se retrouve dans un endroit totalement inhabité. Il abandonne son cheval. Il se coupe sa grande natte, signe de sa majesté, de sa royauté. Ce qui était une chose inconstable, c'était un affront de faire une chose pareille. Il donne ses vêtements, ses ornements. Son serviteur, il lui laisse le cheval et il s'en va, avec trois fois rien sur lui, le minimum. Il part du pied, en disant « je pars maintenant à la recherche de quelque chose, de la voie qui mènera les êtres à la fin de la souffrance. » Son serviteur était médusé, bien entendu, en larmes, parce qu'il comprenait à ce moment-là qu'il ne reverrait pas si tôt. Et puis il part. Et pendant plusieurs années, il cherchera, il essaiera toutes sortes de choses, des pratiques de méditation, de yoga, de rétention du souffle. Et il atteindra à nouveau toutes sortes de consciences, il fera l'expérience que toutes les consciences divines, y compris de la conscience suprême, celle qui est au-delà de toutes les consciences, dont il dira plus tard lui-même qu'elle est vide de perception et en même temps vide d'absence de perception, c'est l'état de divinité suprême, totale. C'est l'état de non-méditation, il n'y a plus de méditation à ce niveau-là. Cette conscience est en fait la conscience chérie des mystiques du monde entier, du passé, parce que de nos jours, on en parle, mais on parle vraiment de ça comme une chose lointaine, comme une chose hypothétique, puisque très rares sont les personnes qui ont la possibilité de l'expérimenter. C'est une conscience totalement immatérielle, en fait. Lorsque l'on nous parle de l'expérience de divinité, l'expérience de félicité, l'expérience de sagesse, lorsque l'on dit conscience unifiée, conscience, compassion, amour, éternel, transcendance, ça veut dire quoi ça? C'est au-dessus de tout ça. C'est au-dessus parce que, en fait, c'est pas au-dessus de tout ça. On pourrait presque dire c'est en dessous de tout ça. C'est derrière tout ça. C'est ailleurs que tout ça. C'est une expérience où il n'y a pas d'amour, pas de compassion. Évidemment, pas d'impureté, pas de souffrance, aucune souffrance. C'est une sorte de continuum ininterrompu, mais qui n'est pas conscient. Et en même temps, on ne peut pas dire qu'il soit totalement inconscient. Il a fait l'expérience de ça, il est arrivé à cela en suivant les instructions d'un grand maître qui a pu l'amener à cette expérience suprême. C'est la 8e sphère de divinité en fait, hein, selon les 8 sphères de divinité, c'est celle avec qui il y a dit, c'est celle qui lâche les autres en quelque sorte. Il y a encore un concept dans les autres. Et là, il semblerait qu'il n'y en ait plus. Ou c'est comme s'il n'y en avait plus. Mais, bien qu'ayant atteint cela, et bien qu'ayant été reconnu comme un maître, pleinement éveillé par ses contemporains, il n'était pas satisfait. C'est assez incroyable d'ailleurs, parce que il avait atteint la chose suprême dans cet univers, dans ce monde. Il n'y a pas au-delà, il n'y a pas au-delà, il n'y a pas au-dessus, puisque c'est une conscience qui est vide. Il ne peut pas y avoir plus vide que vide. Mais il n'était pas satisfait parce que, selon lui, c'était encore quelque chose. Et si c'était encore quelque chose, c'était encore un problème. Il n'était donc pas convaincu que cela était la solution, que d'avoir atteint cela était la solution, était la fin définitive. Parce que pour que cela fût la fin définitive de toute souffrance, de toute peine, il aurait fallu avoir la garantie qu'au moment de la mort, la conscience à nouveau s'absorbe dans cet état de divinité suprême et il demeure cette fois-ci. Pour l'éternité. Chose que, bien entendu, tout le monde croit. Tout le monde croyait de son temps et tout le monde croit encore toujours. La divinité suprême est éternelle. Celui qui en a fait l'expérience de son vivant pourra, au moment de sa mort, s'y absorber à nouveau pour l'éternité. Bouddha n'était pas du tout convaincu de cette affirmation. Donc, il lui fallait encore chercher autre chose. Mais quoi ? Personne ne pouvait lui indiquer la voie, personne ne pouvait lui donner des instructions. Alors il a essayé pendant toutes ces années des pratiques diverses, particulièrement astreignantes parfois, de retenir son souffle, de ne pas manger, de jeûner, se mortifier en fait. On dit qu'il dit lui-même qu'il était tellement maigre que la peau du ventre touchait la colonne vertébrale. C'est une manière imagée de parler, mais. Il ne fait pas être bien gros en tout cas. Il se nourrissait de un pochuche et un dinerie par jour. Minimum quoi. Et ce pendant des mois, des années. Alors il a dû faire des expériences complètement transfigurantes, des expériences mystiques absolument éblouissantes. Mais il n'en parle pas beaucoup, il ne les décrit pas, parce que pour lui, ça n'était pas le plus important. Parce que c'était encore quelque chose, c'était encore du monde de l'expérience. Et à un moment donné, il a eu une intuition extrêmement vive. Il s'est dit, le moment est venu, il s'est senti arriver à maturité, il s'est dit, là, il faut que j'y arrive maintenant, parce que là, je n'avance plus. Et ce jour-là, il a accepté pour la première fois de prendre un repas, un vrai repas, tout à fait comme il faut, ce qui lui a valu d'ailleurs par ses amis de route, un certain dédain, parce qu'ils lui ont reproché de revenir au plaisir des sens, alors qu'il faisait simplement que revenir à la raison des sens. Et puis, un épisode aussi. Ce jour-là, ou peut-être la veille, il entend un musicien sur une embarcation en train de filer devant lui sur le banc. Il entend jouer une mélodie qui est particulièrement réussie et il lui dit, mais comment est-ce que tu arrives à jouer une mélodie aussi bien avec ton instrument? Il lui dit, bah, c'est simple, il ne faut pas que la corde soit trop tendue, et il ne faut pas que la corde soit trop molle non plus. Et ça lui a inspiré à ce moment-là une vive réflexion, il s'est dit, mais oui, c'est ça en fait, il ne faut pas de relâchement, il ne faut pas de vivre dans la luxure, dans la paresse, dans le laisser-aller. Il n'est pas nécessaire non plus de s'astreindre à des pratiques extrêmement sévères, c'est une purification corporelle, il doit y avoir une voie juste, une voie moyenne, qui rejette ces deux extrêmes. C'était une intuition très intéressante qu'il a eue à ce moment-là. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il a décidé d'abandonner le jeûne, d'abandonner toutes ses pratiques. C'est à ce moment-là aussi qu'il est arrivé enfin à maturité. Et que ce soir-là, il décide de s'asseoir sous un arbre pour se livrer à on ne sait quelle méditation, afin de trouver enfin ce qu'il cherchait. Après avoir réduit la tension de la corde, la tension de sa vie, la tension de son entraînement, de ses ascèses, il s'installe dans la modération, dans la justesse, avec un état d'esprit totalement relaxé et ouvert. Au pied de cet arbre, il se dit, maintenant je ne bougerai pas, je ne bougerai plus, c'est fini, c'est le moment final pour moi. Je suis arrivé au bout, j'ai tout vu, tout expérimenté, tout connu, pratiqué, tout essayé. Le moment est venu maintenant, pour moi, de faire l'expérience de l'éveil. Et je ne bougerai pas quand je serai terminé. Il avait l'intuition que cela allait lui arriver, bien entendu, très prochainement. Et ça lui est arrivé pas plus tard que quelques minutes après, en fait. Pendant la nuit, il explique. Il a fait l'acquisition. Il a commencé d'abord par réfléchir, il y a des réflexions intenses sur le monde, sur les phénomènes. Il a compris que le phénomène, en fait, la conscience, était constitué de moments qui se succédaient et qui étaient chacun la cause du suivant ou la conséquence du précédent. Et qu'en dehors de ce cycle de répétition des phénomènes, le monde était vide. Prise de conscience très importante qui, bien entendu, allait un peu à l'encontre de toutes ces doctrines philosophiques et religieuses que l'on pouvait prêcher à l'époque et que l'on retrouve de nos jours dans toutes ces religions, dans toutes ces confessions. Là, il a une intuition, certes tout intellectuelle, mais c'est déjà un homme, que le monde était définitivement vide de toute substance. Vide, puisque cette divinité suprême qu'il a expérimentée n'était après tout qu'un moment de conscience. Certes, pas des moindres, mais un moment de conscience. Que le monde est vide de cette divinité suprême, éternelle, en laquelle croient tant les religions de l'humanité, toutes, sans exception. Il a pris conscience que les phénomènes sont simplement des choses qui se passent, dont on peut nier qu'elles se soient passées. Donc il est impossible de dire véritablement d'ailleurs ce qui s'est passé. Et qui se succèdent, tout simplement, comme les vagues se meurent sur la plage, l'une après l'autre. Cette intuition sera suivi d'un souvenir de son enfance, de son expérience d'enfance, lorsque il a atteint la première des huit consciences divines, qui est déjà un état de repos intense, qui est un état de joie, de félicité intense, un état de lucidité intense, de paix, un état de bonheur intense. Il s'est dit, c'est peut-être là-dedans. Il doit y avoir quelque chose à explorer. Et puis, une fois qu'il s'est absorbé dans cette conscience, il a continué. Et suite à cette prise de conscience, cette réflexion sur les causes interdépendantes, il a à ce moment-là eu une intuition fulgurante qui lui a permis de faire l'expérience de l'éveil. L'expérience de l'éveil n'a rien à voir avec les descriptions hollywoodiennes, tibétaines, zen, que sais-je encore, que l'on peut lire dans toute la littérature, copyright, superproduction, émission de télé, grand maître qui passe le dimanche matin à la télévision, expérience transcendante, expérience fulgurante, transfigurante, blablabla. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Si on veut savoir ce qui se passe véritablement, ce sera difficile parce que Bouddha lui-même ne l'a jamais dit. Il n'en a tout simplement jamais parlé. D'ailleurs, il ne mentionne même pas vraiment la chose. Ce dont il parle, quand il nous explique ce qui lui est arrivé cette nuit-là sous l'arbre, c'est ce qui s'est passé juste avant et ce qui s'est passé juste après. Et il a trouvé inutile de parler de ce qui se passe juste suspendant. Parce que de toute façon, ce qui se passe suspendant doit probablement être très difficile à expliquer. Pour la simple et bonne raison que il ne doit probablement pas se passer grand chose de visible. Parce que s'il se passe quelque chose de visible, ça veut dire qu'il se passe encore quelque chose et qu'on n'y est donc pas arrivé. L'éveil doit être un truc où rien ne se passe. Si quelque chose se passe, il doit y avoir personne pour y assister. L'éveil, c'est peut-être un truc qui doit se passer à votre insu, finalement. Et pourtant, ça ne peut pas se passer à notre insu. Parce que sinon, on ne le saurait pas. Ça doit être un truc très, très bizarre. C'est peut-être un truc infiniment plus simple aussi qu'on peut s'imaginer. Une fois qu'il a atteint l'éveil, il a constaté des choses de la fête inhabituelle, notamment l'acquisition d'une connaissance, d'un savoir totalement illimité, insoupçonné. La capacité à voir toutes ses vies passées en remontant comme ça à l'infini des temps. La capacité à voir tout l'univers, mais les moindres points de l'univers, premier. La capacité à tout savoir sur tout. Comme il le dira un jour, quand on lui posera la question, il dira, quel que soit le sujet sur lequel je porte la pensée, j'en ai une connaissance illimitée. Ça, ce sont des acquis, ça n'est pas l'éveil. La connaissance illimitée n'est pas une caractéristique de l'éveil, contrairement à ce que l'on affirme habituellement dans les religions. C'est une conséquence de l'éveil d'un être comme Gautama, l'éveillé Gautama, Bouddha Gautama. Mais ça ne fait pas partie de l'expérience de l'éveil. Parce que l'éveil n'est pas une expérience de connaissance, contrairement à ce que l'on dit souvent. Suite à cela, il a observé aussi visiblement des transformations sur son organisme. Transformations importantes, métaboliques. Il a visiblement grandi. Sa peau a changé de teint. Il s'est retrouvé avec 6 dents de plus. 6 ou 8, je ne sais pas. C'est lui-même qui, dans un discours, donne la liste des marques majeures qui caractérisent les êtres de son espèce. C'est de lui que l'on tient la description. Les cheveux très courts, en boucle, aplatis, qui tournent toutes dans le même sens, couleur bleu nuit, avec une protubérance sur le sommet du crâne, dont on ne sait absolument pas à quoi elle pouvait ressembler d'ailleurs. Les pieds parfaitement plats. Les mains qui atteignent les genoux lorsque l'on est debout. Et les doigts aussi, les 4 doigts de longueur identique, qui ne devait pas être très pratique d'ailleurs. Il parle lui-même de ces marques qui aujourd'hui nous surprennent. Et on a du mal à imaginer que ce soit possible, et pourtant. Et pourtant. Il est tout à fait probable que, en ce temps-là, en Inde, grâce à la maîtrise des pouvoirs surnaturels, qui pour eux ne devaient d'ailleurs pas être surnaturels. Pour eux, ce qui aurait été surnaturel, c'est de voir un TGV ou de voir un Airbus, ou de voir quelqu'un parler à 6000 km avec une petite boîte en plastique dans la main. Mais pour eux, voler dans les airs sans avion, communiquer avec quelqu'un à 6000 km de distance sans petite boîte dans la main, devait être des choses peut-être tout à fait naturelles. Visiblement, il devait y avoir à cette époque-là de drôles de personnages. Très grands, très petits, très gros, très maigres. D'ailleurs, si on regarde l'Inde de nos jours, c'est assez fascinant de voir qu'il y a des restes de cette incroyable diversité, de ce kaléidoscope. Et d'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'aller si loin pour voir comment les humains aiment se transformer. Il y a des femmes qui ont des testicules. Il y a des hommes qui ont des seins. Il y a des gens qui ont les cheveux bleus, les cheveux roses, les cheveux verts, qui en ont aussi, qui n'en ont pas là. Il y a des gens qui se changent la couleur de la peau. Il y a des Africains qui sont blancs. Il y a des gens qui ont les yeux noirs et qui se les font passer en bleu. Ces choses-là pourraient très probablement paru incroyable, par exemple, il y a 2 ou 3 siècles en arrière, en Europe. À cette époque-là, les humains qui aimaient se changer, se transformer, le faisaient à travers les vêtements, la coiffure extravagante. Ils le faisaient aussi à travers la maîtrise de l'art, la musique, la danse. De nos jours, malheureusement, pour diverses raisons, cette maîtrise tend à disparaître et on a tendance maintenant à se transformer, à s'identifier, à se faire remarquer en opérant sur soi des mutilations corporelles. Retour à une tradition indienne vieille de plusieurs millénaires. On se perce le corps avec des anneaux métalliques, ici et là, sur la langue, sur le nez, sur le pénis. On se fait de la chirurgie pour changer de visage, pour se rajeunir, enfin le croit-on. On emploie des médicaments qui ont des effets inattendus puisqu'ils font pousser des seins aux hommes et la barbe aux femmes. Des choses qui finalement sont de nos jours tout à fait banales, qui auraient été totalement inimaginables il y a 2 ou 3 siècles et qui étaient probablement en ces temps-là aussi tout à fait banal en main, sauf qu'on n'y arrivait pas par les mêmes moyens, on n'avait pas besoin de prendre des drogues, on n'avait pas besoin de se livrer au bistouri d'un chirurgien. En ce temps-là, on arrivait peut-être, par diverses maîtrises, tout à fait exceptionnelles, par divers yoga, à se grandir, à se rapetisser, à se changer de couleur. Parmi les moines, disciples de Bouddha, il y en a un dont on dit qu'il avait la peau bleue, ce qui ne veut pas dire qu'il était nécessairement bleu ciel, bleu franc, peut-être c'était juste une teinture bleutée, un vague aspect bleuté, mais toujours est-il que l'on dit qu'il était bleu. Son temps, il y en avait plusieurs comme ça. Alors, voir débarquer quelqu'un qui mesure 1,50 m de haut, avec la peau cuivrée, les dents de longueur identique et les bras plus longs, devait pratiquement passer inaperçu. D'ailleurs, quand on s'en tient aux Écritures, on remarque que ça n'est pratiquement jamais l'aspect physique de Bouddha qui a surpris les gens. Jamais. On n'en parle pas. Très peu de personnes ont été surprises par l'aspect de Bouddha. Une fois, par exemple, lors d'un de ses déplacements, alors qu'il se rendait vers un village, exactement vers un grand festival, Bouddha s'arrête dans une grange pour passer la nuit. Il lui demande l'hospitalité, et ce soir-là, un jeune moine arrive. Un de ses disciples, un adepte de son enseignement, mais qui ne s'était jamais rencontré auparavant. Et alors Bouddha lui demande, mais où l'as-tu ? Et le moine lui dit, je vais à tel village parce que j'ai entendu que le Bouddha s'y rendait et je veux entendre son enseignement. Le jeune moine ne s'était même pas rendu compte que c'est lui qui était en face de lui. Donc, cela tente à montrer que Bouddha n'avait pas de signe particulier, unique, n'avait pas de signe tout à fait remarquable. Or, il mesurait 2,50 m à 3 mètres de haut. Quand il tirait la langue, il arrivait à se toucher le sommet du crâne avec le bout de la langue. Il avait le lobe des oreilles qui pendait sur les épaules. Donc on peut quand même penser que c'était peut-être quelqu'un de vraiment bizarre. S'il fallait qu'on fabrique, en image de synthèse, un personnage avec les caractéristiques qui sont rapportées de sa propre bouche, on aurait une espèce de monstre vraiment bizarre. Eh bien, ce moine ne s'est visiblement absolument pas surpris. Pas du tout surpris d'avoir ça en face de lui. Ce qui peut laisser penser que des choses tout à fait extravagantes, des gens bizarres, devaient exister, devaient être très très fréquentes en Inde. Et je répète, je reviens à nos jours modernes, regardez les rues de Zurich par exemple, je ne parle pas de la France, c'est un pays qui a 20 ou 30 ans de retard dans beaucoup de domaines, mais quand on va à Zurich, quand on va à New York, on voit des choses complètement hallucinantes, des gens complètement bizarres. On ne sait pas encore faire grandir quelqu'un de 1 mètre. On ne sait pas encore faire pousser des dents, mais on arrive déjà à changer, ou presque changer le sexe de l'humain. En tout cas, l'apparence sexuelle d'un humain. On arrive à faire des choses complètement époustouflantes. Et on arrive maintenant à parler de ces mutations génétiques. On commence à envisager des médicaments qui arriveront, ou des traitements qui arriveront à altérer le code génétique. Et alors, qui dit altérer le code génétique ? Dit mutation corporelle, on arrivera un jour à faire changer la couleur de peau, à faire peut-être modifier la forme d'un membre, à faire des choses bizarres, transformer carrément l'apparence de quelqu'un, on y arrivera de plus en plus. De plus en plus facilement. Et de nos jours, on se surprend de moins en moins de voir des gens habillés de façon bizarre, colorés de façon bizarre, mutilés de façon bizarre. Donc, en ce qui concerne l'aspect extérieur et corporel de Bouddha, qui était vraisemblablement tout à fait surprenant, caractéristique d'un être comme lui, il était le seul et unique être humain à avoir ses stigmates, à avoir ses marques, elle ne devait pas tant surprendre ni choquer. Par exemple, lorsque il a atteint l'éveil, après 49 jours passés à réfléchir, passés à méditer, passés à s'absorber dans ce qu'on appelle la conscience du fruit, qui est la conscience qui expérimente encore et encore l'éveil, il va à la rencontre des humains pour essayer de partager ses expériences, pour essayer maintenant de leur donner cet enseignement. Et il rencontre enfin un groupe de 5 ascètes avec qui il avait partagé des années de sa vie, d'ascètes justement. C'était ses amis, ses compagnons de route, ceux-là même qui, il y a quelques semaines, l'avaient dédaigné parce qu'il avait osé se remettre à manger. Eh bien, lorsqu'ils le voient arriver, ils ne sont absolument pas surpris de le voir comme ça, totalement transfiguré, avec des proportions totalement différentes, avec un corps visiblement tout à fait extravagant. Ils ne feront même pas la remarque. Lorsqu'ils le verront arriver, ils seront simplement, disent les textes, surpris de certaines radiances qu'il a, certaines prestances qu'il a, certains rayonnements qu'il a, mais pas du tout de son aspect physique, qui devait être finalement, d'une certaine manière, on peut dire banal. À cette époque-là, eux d'ailleurs devaient être amusants avec leur piercing d'hiver, avec leur drôle de costume, leur corps peut-être couvert de cendres, extrêmement, qu'est-ce qu'on en sait. Alors il vient vers eux et il leur dit, voilà, j'ai trouvé, je suis arrivé. Et ils sont très sceptiques, donc s'ils le voient arriver. Ils ne l'accueillent pas de la façon dont on accueillait habituellement la spirituelle d'hiver, préparant un siège, leur donnant à boire et leur lavant les pieds. Ils ne veulent pas parce qu'ils ne lui font pas confiance. Il devra répéter, il devra insister. J'ai trouvé la voie, je suis l'éveillé, l'unique dans ce monde, celui qui a trouvé la voie, celui qui est arrivé à la fin complète de la souffrance, l'Arahanto, celui qui est digne de vénération, de respect, de prendre, le Bhagavato, le vainqueur. Mais il ne veut toujours pas écouter son enseignement, il le dédaigne. Et lorsqu'il répète une troisième fois, l'un d'eux se dit, peut-être après tout, peut-être a-t-il trouvé quelque chose. Alors à ce moment-là, ils acceptent de le recevoir, ils lui préparent un siège, ils le font s'asseoir, ils lui lavent les pieds, ils lui offrent de l'eau et écoutent son enseignement. Et là, il donne son enseignement, son premier enseignement, son premier discours, où il explique les 4 nobles faits, où il explique le chemin obtus qui mène les êtres à la libération de la souffrance. Et bien sûr, les 5 ascètes ici présents, en train d'écouter son enseignement, il n'y en a qu'un qui comprendra et qui du coup fera l'expérience de l'éveil à cet instant-là. Les 4 autres, vraisemblablement plus dubitatifs, moins mûrs, tarderont à comprendre. Il leur faudra quelques semaines d'entraînement à Vipassana, cet entraînement-là que certains d'entre vous ont suivi ici, la semaine dernière, je ne sais plus, pour arriver finalement à la réalisation. Et le texte dit, et ce jour-là, il y avait 6 arantes dans le monde. C'était une manière de dire que ces 5 premiers disciples sont arrivés à l'éveil complet, à l'éveil final, à la pleine maturité. Ce qui est une manière de dire que l'éveil auquel ils sont arrivés est exactement le même que celui auquel Bouddha lui-même est arrivé. Puisque il dit, le texte dit, ce jour-là, il y eut 6 arantes dans le monde. Très important. Il faut bien comprendre ça. Parce que par définition, il ne peut y avoir qu'un éveil final, complet, total. Il ne peut rien avoir plusieurs. C'est encore un argument qui tente à reléguer ces notions de conscience divine qui se répartissent en couches, conscience étant supérieure à la précédente, jusqu'à ce qu'on en arrive enfin à la conscience finale, pour le degré d'éveil. Il n'y a pas de degré d'éveil. Il y a l'éveil ou pas l'éveil. Suite à cela, l'éveillé Gautama consacrera tout le reste de sa vie à son enseignement. L'enseignement de cette voie qui doit amener les êtres à la fin de la souffrance, à la fin de la misère, à la fin de toute contrainte morale, mentale, à la libération complète et finale. Nombre de ses élèves arriveront à l'éveil beaucoup plus vite que ses cinq premiers disciples. Nombre d'entre eux mettront plus de temps. Certains n'y arriveront pas de leur vivant. Certains n'y arriveront pas du vivant de Bouddha, mais y arriveront après. Toujours est-il que, une fois que Bouddha nous a quittés, il restera derrière lui un grand nombre de moines, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de moines, de laïcs, qui ont fait l'expérience de l'éveil, qui, à leur tour, se chargeront de transmettre cet enseignement, sans oser en changer quoi que ce soit. Seulement lui-même est tellement parfait, puisque si celui qui l'a donné est vraiment doué du savoir universel, c'est que tout ce qu'il a dit est juste, alors il n'était absolument pas nécessaire de changer quoi que ce soit. Seul quelqu'un doué du pouvoir du savoir universel aurait pu se permettre de changer, mais alors, s'il avait changé quelque chose, ça aurait été une manière d'avouer qu'il y avait une erreur. Donc par définition, l'enseignement de quelqu'un qui est arrivé à la sagesse complète, à la connaissance totale, finale de toute chose, devrait en tout cas être ignorable. Ne jamais évoluer, ne jamais changer. Il devrait aussi être distinct et séparé de tout environnement culturel. Ça ne devrait pas être un enseignement indien, ou arabe, ou tibétain, ou latin. Ça devrait être un exposé, un énoncé de choses, de faits, qui ne doit pas dépendre d'un contexte social, ou culturel, ou historique. Cet enseignement devrait rester immuable, comme au premier jour, tout au long du temps, à travers les civilisations. Ce sont les humains qui doivent s'adapter à cet enseignement et pas le contraire. Parce que si l'enseignement change, c'est qu'il est faux. C'est aussi simple que ça. Ou ce qui ne tient pas. Donc, les élèves de Bouddha, au fil des siècles, s'évertueront à préserver cet enseignement intact, si possible, à rejeter l'apparition de doctrines philosophiques diverses qui voudraient le commenter, qui voudraient le corroborer, qui voudraient le détailler, qui voudraient l'interpréter surtout. C'est inutile d'interpréter puisque l'enseignement est réputé juste. Personne n'a été capable dans l'histoire de démontrer qu'un seul aspect de cet enseignement est faux. Ne tient pas. C'est la raison pour laquelle ceux qui aujourd'hui véhiculent cet enseignement ne veulent pas y toucher. Ici, on pense que on n'a pas tout à fait compris quelque chose, le problème doit venir de nous. Après avoir enseigné toutes ces années, avoir vécu une multitude d'histoires, connu une multitude d'anecdotes, l'éveillé Gautama arrivera, comme tout le monde, comme tous les êtres qui vivent dans l'univers, à la fin de sa vie. Un jour, il est invité à manger quelque part, chez les gens, qui lui donneront un champignon, vraisemblablement une truffe, on a du mal à savoir exactement de quoi il s'agit, puisque les textes disent du manche-cochon. Alors certains disent que c'était du porc, puisque c'était du manche-cochon, d'autres diront non. C'était le nom donné probablement à une nourriture appréciée par les cochons. D'où l'idée qu'il devait s'agir probablement d'un champignon, peut-être d'une truffe. Enfin bref, toujours est-il que dans ce qu'il a mangé, il y avait une viande ou un légume, vraisemblablement un légume plutôt, un champignon donc, avarié, ou empoisonné, ou vénéneux peut-être. Qui fait que le moine Gautama sera pris de maladie très grave, extrêmement pénible et douloureuse, et qu'il nous quittera environ 2 ou 3 semaines après ça, ou 2 ou 3 mois après ça. Entre le moment de son éveil et le moment de son départ, Sri Gautama n'aura rien fait d'autre que travailler à la propagation de son enseignement, d'une manière ou d'une autre, avec tout son talent, tout son génie, sa science. Il n'a rien fait d'autre, à part, bien entendu, le minimum vital pour sustenter son corps. Il dormait une heure par nuit, consacrait chaque nuit une heure à l'assise et une heure à la marche. Comme il le disait lui-même, c'est dans l'assise et dans la marche que l'on s'entraîne à la vision directe, dans la réalité. Et lui-même continuait toujours de suivre cet entraînement. Non pas qu'il avait encore quelque chose à atteindre ou à découvrir, mais c'était là pour lui l'occasion de se détendre, se relaxer, de mieux gérer les contraintes de son corps, notamment les maladies, de vivre plus confortablement sa vie matérielle, sa vie corporelle. C'était aussi l'occasion pour lui d'observer le monde, d'observer l'univers, d'observer tous les êtres et de trouver dans cet univers des êtres qui étaient mûrs pour recevoir son enseignement. Et le lendemain, d'aller se diriger vers eux pour leur donner. Il avait ainsi des facultés qui lui permettaient de voir, d'entendre, de connaître à distance. Parmi ses élèves, il y en eut deux qui étaient tout à fait remarquables. Vénérable Sariputta et Vénérable Moggallana. Ils maîtrisaient tous les exercices de méditation. Ils avaient bien entendu atteint le plein éveil. Ils étaient doués d'un intellect absolument prodigieux. Et puis, en plus de ces deux disciples tout à fait exceptionnels, il y en avait 75 autres qui n'étaient peut-être pas aussi développés, peut-être pas aussi mûrs que ces deux-là, mais qui avaient développé des qualités tout à fait exceptionnelles. Certains étaient des orateurs géniaux, d'autres avaient la capacité à s'absorber dans toutes sortes de transes méditatives. Certains avaient des pouvoirs psychiques formidables. Certains étaient des moines quasiment parfaits dans le respect des règles de discipline. Chacun sa spécialité. Parmi eux, un jouera un rôle clé, un rôle capital dans la préservation de l'enseignement. C'est le moine Ananda. Ananda, celui qui aime. Ananda était quelqu'un qui avait pour Bouddha une vénération totale, un attachement considérable. Il n'avait pas atteint l'éveil complet de son vivant, du vivant de son maître plutôt. Il avait atteint le stade de Sotapanna, qui est déjà une bonne chose. Là, il lui restait encore des impuretés mentales, notamment la capacité à désirer, la capacité à être attaché à quelqu'un ou quelque chose. Mais il avait une maîtrise vis-à-vis de ces impuretés qui était époustouflante. Elle ne l'atteignait virtuellement pas. C'était quelqu'un qui était doué d'une intelligence prodigieuse et d'une mémoire pharaonique. Il avait la capacité de mémoriser toutes sortes de choses, toutes sortes de détails, et de ne jamais oublier. C'est la raison pour laquelle Bouddha lui confiera la responsabilité, en fait, plutôt c'est lui qui la demandera, d'ailleurs, de mémoriser toutes ses paroles, tous ses enseignements, pour les préserver, pour leur donner une sorte de version canonique officielle. Et c'est ce qu'il fit. Et même lorsqu'ils étaient séparés, Bouddha s'était engagé à lui répéter à l'identique les paroles qu'il avait tenues, pour qu'il ne lui en manquât aucune. Ananda jouera un rôle capital dans la vie de Bouddha. Son attendant, fidèle attendant, il ne le lâchera jamais, se séparera que très rarement et occasionnellement de lui. Doué d'une intelligence, d'une sagesse, d'une gentillesse, d'une bonté, d'une compassion à toute épreuve, il sera l'inséparable ami, l'inséparable assistant, l'inséparable moine. Il fera tout pour aider son maître et qui fera tout pour aider les êtres à rencontrer son maître, à bénéficier de son enseignement. Il était tellement intelligent, il était tellement instruit est tellement expérimenté dans les choses de l'esprit que souvent, Bouddha lui disait de terminer un enseignement parce qu'il était fatigué. Il disait d'ailleurs, quand un homme enseigne, c'est comme si c'est moi qui enseignais. Ainsi, arrivé au terme de sa vie, pour avoir été empoisonné par un champignon, Bouddha nous a quittés, comme tout le monde, il est mort, et ceux qui ne sont pas encore morts, donc à se rassurer, ça va leur arriver aussi. Ça arrive à tout le monde, personne ne peut échapper à ce truc-là. L'immortalité, l'éternité, elle n'existe pas. C'est inconcevable. Comment peut-on affirmer que puisse y avoir dans le monde, dans l'univers, une chose éternelle? Comment peut-on affirmer que la divinité est éternelle? Comment peut-on affirmer? C'est une chose qu'on imagine, une chose qu'on suppose, une chose à laquelle on croit. Mais c'est une chose que l'on ne peut pas affirmer. Ainsi, Bouddha nous a quittés. À chaleur de 80 ans, c'est-à-dire très jeune, puisque de son temps, cette époque-là, les textes relatent des durées de vie fréquentes bien au-delà du siècle, 120 ans, 140 ans, 160 ans, pas seulement dans les écritures du Kamavada, mais il est mort jeune, puisque en post-mort, il n'a pas eu le temps de terminer complètement ce qui aurait pu être sa vie. Il nous a laissé une quarantaine d'années d'enseignement. Quarantaine d'années de déplacement pour répandre sa parole. Mais à la fin, il n'était pas seul, il y avait déjà des dizaines de milliers de moines qui le faisaient aussi, qui propageaient sa parole partout dans cette région-là. Peu de temps avant de partir, il dira à Ananda, voilà, une fois que je serai parti, il faudra que les moines les plus intelligents, les plus érudits, bien entendu, pleinement éveillés, se réunissent et récite intégralement ma parole et mon enseignement. Arrête, en quelque sorte, une version définitive de mon enseignement. Ainsi, se réuniront, 100 jours après le départ de Bouddha, 500 moines. En fait, ils n'étaient certainement pas 500, mais dans les écritures, c'est une manière de dire, de donner une idée de grandeur. Très souvent, on dit 500, ou on dit 5000, ou on dit 500 000. Peu importe le détail. Seulement ce jour-là, Ananda était conscient qu'il n'avait pas atteint le dernier stade, qu'il n'était qu'un sotapanna. Et les moines, devant prendre part au conseil, n'étaient pas tout à fait favorables à l'idée qu'un sotapanna y prenne part. Et d'un autre côté, il le fallait bien, puisque c'était le souhait de Bouddha. Et de toute façon, Ananda lui-même n'était pas favorable à l'idée qu'il y eut parmi les 500 moines un être qui ne fut pas pleinement éveillé. Il a donc décidé de se consacrer pleinement à l'entraînement, libéré de l'attachement considérable qu'il avait pour son maître, Bouddha, qui lui empêchait de prendre le temps de se consacrer à l'entraînement, n'ayant plus rien d'autre à faire finalement de sa vie, débarrassé de toutes ses obligations à l'égard de son maître, il a décidé d'entreprendre l'enseignement en alternant l'assise et la marche, de s'exercer de façon extrêmement intensive à la vision directe, qui mène à l'expérience, à la connaissance de la réalité. Et après quelques jours, il atteint l'éveil complet, final. L'histoire dit que lorsque les 499 paramita étaient réunis dans une grotte, je crois, il restait la place du général Ananda que l'on attendait, et on le vit alors arriver en flânant dans les airs, et il vint s'asseoir à sa place de cette manière-là, ce qui était une manière pour tout le monde présent dans la salle de comprendre qu'il était arrivé au bout. Et là, il récitait intégralement, en comptant sur Ananda, doué de sa mémoire prodigieuse, tout l'enseignement connu, rapporté, mémorisé de Bouddha. Cet enseignement est arrivé de nos jours on va dire, presque intacte, avec énormément d'augmentation, toute une littérature abondante qui l'entoure. Mais on sait quelle est cette littérature, on sait ce qui ne vient pas de lui. Ça a été mentionné tout de même. On a l'essentiel. Et plus important encore que les mots, on a l'expérience. On a la possibilité encore aujourd'hui de s'entraîner à la méditation, aux instances divines, c'est vraiment un outil. Et plus important que cela d'ailleurs, ce que vous l'avez considéré comme l'entraînement le plus important, l'entraînement à la vision violente, on a la possibilité de nos jours, vraisemblablement, de faire l'expérience de l'éveil à notre tour, celle-là même que Bouddha fit, celle-là même que Ananda fit, que Sariputta, Moggallana, que ces innombrables quantités de disciples, moines et laïcs, hommes et femmes, adultes et enfants, ont fait. Ainsi, la vie de Bouddha continue quelque part à travers son enseignement, et quand on lui demanda quel successeur il avait désigné à la tête de la communauté des moines, il a répondu qu'il n'en voulait aucun, que son successeur c'était son enseignement. Considérez l'enseignement comme votre maître. Et il dit qu'une fois, qui voit mon enseignement me voit. Et qui me voit, voit mon enseignement. Donc, en partant, il laissera un successeur, qui sont ses mots, tout simplement ses mots, mémorisés, consignés, répétés. Réciter. Encore de nos jours, il y a des personnes, il y en a 6 exactement dans le monde entier, qui ont mémorisé l'intégralité de la parole de Bouddha, en tout cas ce que nous en avons aujourd'hui, dans les écritures qui nous ont été rapportées à travers les 5 autres grands conciles qui ont été organisés depuis ce fameux premier concile. Ils ont mémorisé ainsi l'équivalent d'une dizaine de fois la Bible du chrétien. Toute la parole de Bouddha. C'est une tradition qui se perpétue, qui n'est plus indispensable grâce maintenant à relire, à l'écrit, mais que les Birmans essayent de maintenir vivant. Il y a des centaines de Birmans qui essayent, mais jusqu'à présent, 6, en tout cas pour le moment 6, ils sont parvenus, ils ont obtenu une sorte de diplôme officiel. On les appelle ceux qui sont doués du Tipitaka, ceux qui sont doués des trois corbeilles Tipitaka Dhara. Ils ont la capacité de réciter toute la parole de Bouddha, quasiment sans erreur. On leur tolère un nombre infime d'erreurs pour leur donner le titre. Mais ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que son enseignement soit vivant à travers la communauté des moines qui vivent à l'imitation de Bouddha. C'est important lorsque l'on prétend véhiculer un enseignement de vivre à l'imitation du maître qui l'a donné. S'habiller comme lui, vivre comme lui, se déplacer comme lui, enseigner les mêmes choses qu'il a enseignées et mettre en application soi-même l'enseignement qu'il a donné. Plus ou moins, certes, en fonction de ses propres capacités. Son enseignement est arrivé à nos jours grâce aux laïcs, hommes et femmes, qui ont travaillé sans relâche pour construire le monastère. Pour offrir le monastère aux moines, offrir les robes, offrir la nourriture, offrir les médicaments aux moines, et puis écouter l'enseignement, le mettre en application et le réaliser. Car la réalisation est accessible, bien entendu, à tout le monde, hommes et femmes, riches et pauvres, intellectuels et illettrés, moines et laïcs, sans aucune distinction, puisque ça ne dépend pas de ces choses-là. Ainsi, l'enseignement de Bouddha est là, parce que l'enseignement de Bouddha est là, on peut dire si on veut que Bouddha est encore là. Mais lui n'est plus là, il a bel et bien quitté ce monde, une fois pour toutes. Puisqu'il est arrivé à la libération finale, à la libération complète, à la libération terminale. Et non seulement il s'est affranchi des émotions, affranchi des difficultés, des peines, des contraintes mentales, mais aussi de tout ce qui pouvait résister, de tout ce qui pouvait, pardon, de tout ce qui pouvait encore constituer les peines et les contraintes d'ordre physique. Aujourd'hui, Bouddha n'est plus. Ceux qui le prient, ceux qui le vénèrent, ceux qui lui amènent des offrandes, et qui attendent de lui quelconque grâce spirituelle, perdent leur temps. Si on veut honorer le Bouddha, si on éprouve pour cet être tout à fait exceptionnel et unique dans l'histoire, la seule chose que nous puissions faire, c'est d'étudier, de comprendre, de mettre en pratique son enseignement. Puisqu'il est lui-même qui voit mon enseignement, me voit. Littéralement, qui voit la chose, me voit. Essayez d'avoir une conduite vertueuse, compassionnée, attentive à l'égard des êtres, inoffensive en tout cas. Essayez de mettre en application ces exercices de méditation, voire même mieux encore, s'entraîner à la vision directe dans la réalité est une manière saine, simple, objective, efficace d'honorer Bouddha, puisque on travaille avec la matière, la substance qu'il nous a laissée en héritage. Soyez vous-même votre propre refuge, disait-il, soyez vous-même votre île. N'attendez pas de qui que ce soit de faire le travail à votre place, de vous aider. Mon enseignement est là, il est disponible, étudiez-le, mettez-le en pratique et trouvez en vous-même, par vous-même, les ressources nécessaires à votre libération. Le message est très clair. Voilà, ayant entendu cela, puissions-nous, ici présents, arriver au bien-être, puissions-nous être en bonne santé, puissions-nous vivre bien, satisfaire en tout, longtemps. Puissions-nous comprendre cet enseignement, le mettre en pratique, le réaliser. Et avec nous, ceux qui ne sont pas là, puissent-ils aussi aller bien, être heureux, en bonne santé, vivre longtemps. Puissent-ils accéder à cet enseignement si ça n'est pas déjà fait, le comprendre, le mettre en pratique, le réaliser. Et puis, au-delà de ces gens-là aussi, tous les êtres qui sont aujourd'hui dans l'univers, qui ne sont pas en mesure, comme des animaux, par exemple, d'étudier ou de comprendre, un jour, dans le périple de leur vie nombreuse qui se succède, puissent-ils rencontrer cet enseignement, le comprendre, le mettre en pratique, le réaliser. Puisque les êtres qui peuplent cet univers arrivent enfin à la cessation complète, à la fin complète, de toute peine, de toute souffrance, de toute misère et de toute contrainte.